Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous continuons donc ce soir la lecture de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Le lendemain de cette longue pluie, Edius Raquin sentit un déchirement pendant son sommeil. Au réveil, il constata que l'humeur qu'enfermait son bras s'était écoulée sur le drap. Un mélange de sang et d'infection. Il sentit un grand relâchement de tout son être et la sensation d'une radieuse légèreté. En portant la main à son cou, il constata que la loquette renfermant le charme s'était détachée. Il sut que le mal venait de le quitter. Alors il prit un bain dans le baquet de bois du dimanche, sourit à son épouse et demanda si l'époux l'avait pont. La vie, à cette heure, avait mis une robe blanche. Encore, ma main, encore! Farouche, ferraille, Crowley suspendit son geste en plein vol. Il parut tout escrant et passa sa main dans ses cheveux de blé mûr pour en effacer le découragement. Comme un écho à sa lassitude, le grand bronque hennit dans le lointain. En se frottant le poignet, Crowley revint bac à l'endroit sur le chêne rouge d'où il était parti. Il inclina davantage son feutre sur les yeux. Un 10-gallon hat, comme en portent les cow-boys dans le Wild West, et presque face au soleil, renouvela sa tentative de poigner le revolver. Il allait beaucoup plus vite dans son geste, la foudre au bout de son bras, et Mlle Grandois, qui était après guetter le bandit derrière sa fenêtre, se demanda si vieux Victor Vaughn serait capable de faire seulement deux fois moins fort que farouche ferraille Crowley. Vieux Vic était le constable au village de Bayoun-et-Piquet. Oh man, il conduisait l'ordre avec beaucoup de nerfs. Il était bald-headed, plus un poil sur le crâne. Mais même s'il n'avait pas une grande prestance, il tenait beaucoup la paix dans le village. Il n'avait pas peur de rien. Le mauvais monde le respectait. Même les plus batailleurs qui venaient casser les balles pour le plaisir de se archiner, les marais bouleurs, comme on les appelait. Et il ne se frottait pas à vieux Vic. Oh non! Il disait que c'était un crack-shoot. Là-bas, dans la distance, Crowley avait tourné le dos à l'habitation. Il était toujours accompagné de ce chien errant qui s'était approché par le pont, pas plus tard qu'il y avait 8 jours. Un bétail maigre comme un chat des bois, la fourrure pelée par des égrignures qui prenait sa nourriture dans la main du pistolero avec l'air biais d'un coyote et semblait pas vouloir lâcher son nouveau maître. La nuit est passée. Farouche, ferraille, Crowley avait gardé l'œil sec. La négresse l'avait entendu s'escouer sous son matelas, éveillé au moindre jappement de son taillot, nerveux comme s'il redoutait de la visite. Il ne sortait plus jamais sans son arme et semblait méfier au moindre bruit. Un glissement d'animal dans une talle d'éronce et ses yeux clairs devenaient vilains. Il guettait le chemin qui suivait les corps et n'arrêtait pas de plier son avant-bras blessé. Elle prit une petite boîte en fer posée sur son étagère à médecine et sortit dans la lumière. Elle s'approcha de Ferraille avec beaucoup d'ostentation, mais il fit comme celui qui la voyait pas venir. Elle avait peur de sa manière d'être un fauve. Elle s'arrêta derrière lui sans qu'il eût bougé. Comme elle restait piquée sur place, le grand chien Dingo se leva du tas de poussière où son restant de pelage servait de savane à des mouches. Il vint flairer tout autour de Mamselle Grandoie. Elle aimait pas bien ça. « Good dog », elle dit. Elle posa sa main à plat sur sa gorge. Elle ne voulait pas ébrécher le silence, mais elle sentait l'afflux de son propre sang qui circulait en elle par secousses rapides et fortes. « Je vous ai apporté cette médecine, » dit-elle. « C'est une recette que m'a appris un chauvage nommé Big Joe. Dans les vieux temps, il était tombé en amour pour ma petite sœur, Jasoline B, et savait pas quoi faire pour nous faire plaisir. Il était chef de médecine chez les Kusata et usait des plantes et des têtes de buffle. Il disait que c'était ça que je vous donne à cette heure, qui fait du bien pour les muscles, surtout après une blessure par tirage. » Ferraille se retourna lentement comme un homme qui s'éveille. Il consulta sa montre, la remit dans son gousset et laissa approcher la négrette. Il lui permit même de prendre son bras pour le frictionner avec l'onguen. Elle releva ses jupes et s'assit dans l'herbe. Avec ses 6 pieds de haut, il s'agenouilla devant elle. « Soyez pas inquiet. Votre poignet redeviendra souple et vous pourrez tuer les gens aussi bien qu'avant, » dit la traiteuse. Plus elle jasait, plus elle retrouvait son assurance nonchalante. Elle portait une gentille robe bleue en guingan. Elle frottait le bras musculeux de l'homme avec un soin méticuleux et sensuel, d'où n'était pas absente une pointe d'espièglerie. « Merci de m'avoir laissé jouer avec vous, » dit-elle en détournant son visage lumineux vers le regard abaissé de Farouche. « Je pensais que vous ne saviez pas que j'étais là. » Elle imprégna ses doigts d'une nouvelle couche de baume et reprit le mouvement coulé de son va-et-vient. Comme les paumes de la noire façonnaient attentivement le pourtour de sa chair, Farouche Ferraille Crowley se sentit environné d'un lourd et évanescent parfum. Ses yeux impassibles dérivèrent sur la nuque inclinée de la femme. Doucement, elle continuait à courber la ligne de son dos, à reprendre le poids de son corps, mimant au ralenti devant lui une prosternation presque obscène. Soudain, dans le regard de Crowley, se mêlèrent curiosité et répugnance. Il essaya de lui dire quelque chose, mais ses lèvres étaient figées. Il leva la tête et distingua un bourdonnement autour de l'arbre. Il reprit brusquement son bras. Elle se redressa et lui sourit. « Vous aimez pas quand une femme vous dirige, » dit-elle calmement. « Les femmes nous dirigent moins à cause de leur adresse qu'à cause de notre maladresse, » répondit-il, comme à contre-cœur. « Il y a une femme dans votre vie, Monsieur Crowley ?» Une lueur fugitive passa dans le regard du bandit. « Tu connais mon nom ?» interrogea-t-il sourdement. « Je connais partout où vous avez galopé la terre, et je me vanterai que je ne suis pas la seule. »« Nom d'un sac, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Parle !» Jamais ses yeux n'avaient été d'un blanc aussi lavé. « À Bayouné piqué, monsieur Crowley, votre figure est partout sur les murs, figurez-vous. Shérif Vic Vogue s'est chargé de l'affichage. Vous êtes wanted pour 2000 piastres. »« Sorcière, comment se fait que tu sois sortie sans que je t'aie vue ?»« Eh, missier, sans vous picocher, J'allais pas rester planté au pied de votre litage à espérer votre recouvrance, rétorqua-t-elle. Surtout que les premiers temps, vous étiez toujours après déliré avec une grosse fièvre. Alors, je suis gone à la messe où je chante avec le cœur. À peine elle avait fini de pépiller sa réponse avec sa bouche enfantine que Farouche fixa un regard sur le bayou auprès duquel il s'était avancé et aperçut la pirogue. Effleurant l'eau, son image brisée par les reflets se détachait progressivement de l'épaisse végétation et remontait en direction de la presqu'île. « Je crois pas que ce soit de la mauvaise visite, » murmura Mamselle Grandois en tirant sur le coin de son œil droit pour y mieux voir. « C'est le vieux bouc de l'autre fois, s'il l'a de l'habitation d'à côté. » C'est le camp le plus proche d'ici, ouais. Juste un bon mille manières. Farouche Ferraille Crowley semblait jongler avec une idée pendant un peu de temps et se tourna vers elle. Je voudrais que vous me dessiniez un plan de la région. Eh, missier, j'aurais vite fini, fit-elle en éclatant d'un rire chaud et égal. À part quelques vieilles demeures privées, je vois surtout dessiner un grand nombre de bouées. Des lacs, beaucoup, beaucoup, des trous ronds et une rivière. Et puis, il y a Bayouné-Piqué, où se trouve notre église, mais c'est à une demi-heure, comme vous connaissez. Pourquoi dis-tu que je sais où est la ville ? Lui demanda-t-il brutalement. Parce que je connais que vous n'êtes pas perdu, monsieur Crowley, dit la noire. De Ville Plate à Waco, Texas, vous connaissez les tracks et aussi le prénom des caissiers de banque. Vous connaissez ? Il ne répondit pas. Il y avait de petites taches de soleil qui frôlaient ses épaules. Il était de trois quarts perdu. Il écoutait l'eau. Ses poings étaient fermés, sa mâchoire serrée. Un léger bruissement d'insectes s'éteignait dans les herbes. Il fixait la rivière et ce bateau qui s'avançait vers eux. « Lâchez-vous tranquille, » dit-elle, en sentant qu'il se raidissait. Il avait un étrange sourire accroché dans sa barbe. Elle n'aimait pas quand il cueillait une herbe. « Si Edius aurait dû vous dénoncer au shérif, » chanta-t-elle à nouveau, « il y a beau temps qu'il aurait couru au village. » Et moi, je préférerais go to jail plutôt que de dégoiser sur vous à vieux Vic. Pourquoi êtes-vous si bonne pour moi ? Demanda-t-il en pointant sur elle un air soupçonneux. Toujours il susotait cette herbe, et maintenant voilà qu'il la vouvoyait. Elle prit une expression secrète et rêveuse, puis tout soudain osa le regarder. Et la lumière attisant le blanc de ses yeux ajouta encore une nuance d'audace insolente à sa détermination. « Well, peut-être bien parce qu'à la sortie de la messe, j'ai charré de vous avec un vieux nègre de Bayou Saint-James, » répondit-elle sans ciller. « Ça l'appelle Noncle Rosémont, et c'est un vieux homme. »« Qu'est-ce que ça peut bien me faire ?» gronda Farouche Ferraille Crowley. « D'ailleurs, je n'ai jamais mis les pieds dans ce coin-là. » Mamselle Grandois appuya ses poings fermés sur ses hanches larges comme une bouteille de lait. C'est pourtant une histoire que vous n'avez pas pu rater, dit-elle posément, sinon vous n'auriez pas eu le bras déchiré. Et puisqu'il faut vous rafraîchir la mémoire autant que vous l'entendiez, telle qu'on me l'a dite.
Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau, on de la charité. C'est quelque chose qu'on peut pas faire. Chaque jour, comment je vis, et on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère la vie mieux. Moi, je prends mon vieux cheval pas un drame, ma vieille chère. Et je selle mon vieux phare pour aller chercher ma belle. Tu connais où est Chartigal? C'est loin d'un grand bout à l'autre, mais le long du grand Texas, j'ai cherché où est juste pour toi. Travailler, c'est trop dur, et vous laissez pas bon. Mon élan charité, c'est quelque chose pour pas faire. Chaque jour que moi je vis, et on demande quoi je vis. Que je vis sur la mort et j'espère de vivre mieux. Et je joue ma vieille vase pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien, bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler, c'est trop dur, et vous laissez pas bon. Mon élan charité, c'est quelque chose pour pas faire. Chaque jour que moi je vis, et on demande quoi je vis. Je dis que je vis sous la mort, et j'espère de vivre mieux. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. M'emmener la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, et on demande quoi je vis. Et j'espère de vivre mieux. Je dis que je vis sous la mort. Et j'espère de vivre mieux.
Lectures en liberté. Denis Flagel.
Un grand pas vers le bon Dieu. Après la pause musicale. Donc Rosémont avait à peu près 10 arpents de terre, juste une place pour lui-même. Et il gênait personne. Mais 2 jours avant votre arrivée par la Spanish Trail, un parti de rednecks de la clique des gros genoux est venu chez lui. Ils ont commencé à rentrer dans sa maison, à fouillasser en dedans, à capoter les matelas et les chaises. Vieux non Crémont s'est fâché tout bleu. « Non mais quoi ? Qu'est-ce que vous autres veux ?» Et les coups rouges ont start à le fouetter s'il donnait pas sa terre. C'était à peine à voir, un sac à quoi pareil. Sa dernière fille, Ovélia, 15 ans à peine, criait « Tuez pas mon papa, s'il vous plaît !» Mais les autres ont fait une jambette à la gamine. La tite a mal tombé sur une fourche, alors, pour se défendre, vieux Rosémont a chargé le leader avec son couteau de poche. La folie qui commence, il n'y a pas rien pour arrêter ça. Il a embroché un homme par le ventre. Après, forcément, tous y sont restés trop affoulis pour bouger. Et puis d'un coup, les gros genoux sont partis à se sauver. Mais ils sont revenus bac avec des fusils et non Rosémont n'a pas eu assez de temps pour charger son vieux flingot que les Blancs l'avaient déjà pris. Pour punir le nègre effronté, ils ont commencé à le rouler dans le goudron. Ils voulaient l'emplumer vif dans un lit de plumes. Non Rosémont croyait à sa dernière heure. Par vers chez lui, là-bas, du côté du Bayou Saint-James, les vieux nègres ont encore plus peur des coups rouges que des morts. Il y avait un gros genou, 4 jeun adoptés, qui criait « Un négro, ça a pas de défense, faut tuer ça avec des bâtons !» C'est dans cette occasion que vous êtes surgi comme un démon avec votre grand pistolet. Non, Crozet-Mont dit que les salopes, vous les aurez tous tués. Un grand tuage de malfaiteurs blancs pour défendre une pauvre vie de nègre, ça s'était jamais connu dans ce monde vilain. Si bien, Castor, vous êtes pas seulement le bandit que toutes les polices jurys recherchent pour des pillages et des meurtres, vous êtes aussi Scylla qui protège les nègres contre la vigilance. J'ai jamais pu supporter l'idée qu'on humilie un homme, dit sourdement Farouche Crowley. Peut-être bien parce que je respire depuis longtemps dans l'intimité de la mort, ajouta-t-il, vieille truie puante. À force de la croiser sur ma route, elle me fait même plus doutance. Et je connais l'odeur de son soin. En tout cas, sûr que si vous avancez un pas dans les rues de Bayoun et Piquet, il se trouvera plus de 100 bras pour vous passer une corde autour de la Valoire, chanta la voix chaude de Mamselle Grandois. Il se détourna vers elle. La négrette lut une si profonde lassitude dans son regard qu'elle fit un geste de conjuration derrière elle pour évader les démons. Imaginez la folie d'un lynchage, Monsieur Crowley, s'entêta-t-elle. Et vous, pensez à ma terreur d'aborder un jour neuf, à ma crainte de prolonger la nuit, au doute que m'inspire chaque nouveau visage. Elle le regardait avec une grande intensité. C'était comme s'il s'était donné rendez-vous dans les airs. Elle avait de calmes yeux bruns qui répondaient au masque glacé de l'homme. Il se voûta davantage et fit quelques pas les mains derrière le dos, s'aventurant jusqu'à une pente où le terrain plongeait vers l'ombre d'un fourré touffu de saules et de sureaux. Il dominait l'embarcadère où venait d'accoster la pirogue et par-delà la surface mobile des feuillages, l'eau ondulait en un imperceptible frémissement redoublant la hauteur des jeunes arbres, fantômes d'eux-mêmes. Priez Dieu, sinon la mort violente vous prendra, prédit la contrôleuse des esprits en le rejoignant. Déjà, elle vous gouverne. Je l'appelle de tous mes voeux, dit Farouche Ferraille Crowley. J'ai le goût du sang dans la bouche. Elle trouva qu'il parlait drôle. Sa voix était comme fêlée. Il regardait obstinément en bas vers le débarcadère. Alerté par le claquement sourd de la rame sur le flanc du bateau, le chien, achalé dans la poussière, avait ouvert les yeux et s'était dressé sur ses pattes. En 3 bonds, il avait glissé son front broussailleux sous la main de son protecteur et comme il découvrait l'arrivant dans le lointain, sa queue se mit à remuer faiblement. « Oh, boy ! Le vieux bougue a l'air chargé comme une mule !» remarqua Mamselle Grandois, en voyant la silhouette fluette d'Edius ployée sous la charge d'un sac. Et se tournant vers Ferraille, « Sûr qu'il veut vous faire plaisir avec du moonshine et des œufs du jour. »« Je veux pas faire amitié avec personne, » murmura Ferraille. « Je suis pas destiné pour ça. J'ai trop la poisse au bout des doigts. »« Personne ne peut pas connaître pourquoi il est fait. » Monsieur Crowley, dit doucement Mamselle Grandois, « seul le Seigneur a écrit la fin de votre route. » Après avoir suivi la berge pendant une dizaine d'enjambées, Edius venait de disparaître sous les feuillages. Il s'était mis à monter vers eux, mais il avait une grande pente de bois de flèche à galoper avant de déboucher sur le terre-plein. Le dingo s'était mis à japper dans l'aigu. Il aboyait des appels de joie d'une façon beaucoup énervante et s'était reculé dans les jambes de Crowley, semblait quêter l'autorisation de s'élancer au-devant de celui qui approchait dans le couvert des fourrés. Comme il n'obtenait pas le quitus de son nouveau maître, le taillot poussa un jappement désappointé, se détacha et, allongeant sa course, disparut dans une coulée d'herbe. De son côté, cédant à une impulsion soudaine, Farouche Ferraille Crowley fit mine de vouloir redescendre vers la maison. Mlle Grandoy immobilisa sa fuite en nouant ses deux bras nus autour de son torse. Les paupières closes, un calme de statue peint sur le visage, elle se blottissait derrière l'homme et le tenait embrassé, le bandeau de ses cheveux posé doucement contre son dos. Il la laissa faire. Depuis les frondaisons du chêne rouge, un oiseau s'était mis entre eux. Il modula deux ou trois cris aigus, puis se tut. « Lâchez-vous contre moi, Crowley, » lui chuchota-t-elle. « Ça vous donnera du repos. C'est ça que vous avez besoin. » Elle sentit brusquement se dénouer la contracture de ses muscles. Il lutta un moment contre la secousse d'un sanglot sec qui traversait son échine et happait vers le profond de lui sa cage thoracique. Puis, d'un rejet de la main, il dénoua son étreinte. « Laissez-moi, » gronda-t-il d'une voix contenue, « je n'attends plus rien et j'abandonne mon corps. Aujourd'hui, s'il le faut, je le donne aux rapaces des montagnes et aux bêtes de la terre. » Les rapaces passeront l'été dessus et toutes les bêtes de la terre passeront dessus l'hiver. Écouta, Mlle Grandoy. Amen. Et les herbes s'entr'ouvrirent sur Edius Raquin. Le grand taillot n'arrêtait pas de rebondir sur ses pattes. Il dansait des écarts de poussière autour du petit homme. Une cérémonie d'accueil qui claironnait plus de jappements que si 100 gueules de chiens pouilleux avaient aboyé à la fois. Un concert reprit à gauche, à droite, tout au long des éminences de terre et jusqu'au fond de la rivière par un écho si prolongé que sa résonance faisait de chaque minute un pan d'éternité. Et le temps était à l'émotion. Le vieux bougue s'était piqué sur place. Fin comme une aiguille, nageant dans ses overalls rapiécés, il acceptait les macaqueries d'affection de l'animal sans rechigner. Il laissait faire aussi de grosses larmes, elles séchaient vite sur son chiffon de visage. Edius disait avec une voix d'eau douce, « Mais tiens, hé, voilà !» « Tonnerre m'écrase, c'est toi mon dog. Qui faire t'es arrangé comme ça ?» En réponse, le chien léchait son maître partout où il avait de la peau. Raquin plissait les paupières, se protégeait même pas de cet arrosage de babouine. Il gardait un poing noué autour du sac jeté en travers de son épaule, l'autre bras embarqué sous l'anse d'un panier garni d'une douzaine d'œufs. Toujours il répétait « Mon pauvre Hip, quand t'es arrivé, t'as l'air d'un chien qui pend la langue, d'un hobo du fond des marais !» Impuissant à dire plus, il craquait un sourire muet en direction de ceux qu'il visitait, ce grand coquin du Texas emmanché de son pistolet, Mlle Grandoy dans sa jolie robe bleue. Il attendait que l'amour des bétails ait trouvé ses limites. Il espérait, sans bouger, mouillé comme une terre travaillante, calme, content, à bout. Et puis d'un coup, cararac, sans qu'on comprenne comme, tout se détraqua de travers. Même plus tard passé, Edius aurait été incapable de dire dans quel désordre les choses s'étaient succédées. Vouloir savoir si Shérif Vaughan avait eu le temps de faire traverser le pont à son cheval avant le cri de mise en garde poussé par Mlle Grandoy, ou si farouche ferraille Crowley, après trois tourneboules, avait déjà stoffé l'avance du cavalier en abattant sa monture. C'était du chinois. Edius Raquin ne se souvenait que de sa peur, du hennissement du grand bronc après le premier virage, de la balle qui avait ronflé à ses oreilles, preuve que Vic Vaughan n'était pas mort dans une chute de cheval. Et juste après, le vieux Hip, oubliard qu'il était un chien de chasse dressé pour la mitraille, s'était ensauvé, la queue pas trop haute, vers une île de bois pacanier pour pas rester avec la folerie des hommes. Ferraille s'était placé derrière le chêne rouge. De derrière là, il faisait endurer un mauvais moment à vieux Vaughan, dont seulement le poignet sortait de temps à autre pour lâcher un coup de feu au jugé. Sa position derrière un rocher était peu enviable, et les projectiles du hors-la-loi écrichaient autant la caillasse qu'il commençait à lui sculpter des allures de peigne fin. De même pour Edus, le plus ennuyant à durer était la géographie de la bataille, vu qu'il se trouvait collé comme une grande chique de gomme à mi-chemin entre ces deux disputards. Quand c'était pas l'un qui pistolait d'une main, c'était sur le deuxième qui ripostait de l'autre bord. Edus avait beau rentrer les oreilles, les balles voyageaient près de sa carcasse, risquaient chaque instant de la trouer. Rien qu'en pensant à Bazel, si elle pouvait voir son homme, la bile du vieux planteur avait passé dans son sang. Il avait commencé à voir bleu, puis une faiblesse était venue derrière ses genoux. Le sol avait monté vers lui, une buée, un vertige. Il s'était senti doucement giguer le cœur dans la bouche, et ploup, une chute en avant, s'était retrouvé le nez apprivoisé par les herbes. C'était trop pour qu'il casse pas ses œufs sous lui. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.